Alors, nous allons commencer le premier tour de parole. D'abord, la Tunisie. Merci.
L'inclusion des enfants dans le primaire. Simplement, comment pouvons-nous mesurer cet achèvement sur le plan qualitatif et non pas quantitatif? Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre qui arrivent dans le secondaire sans acquis, sans savoir lire ou compter. Donc, et ça, c'est les compétences générales qu'on a. Mais comment pouvons-nous faire ça? Et est-ce que c'est déjà prévu, est-ce que ça a été mentionné dans le rapport?
Le Burkina, à côté de vous.
Merci. On va consulter pour avoir plus d'informations. Mais ce qui nous a été donné, c'est très intéressant. Ma première préoccupation, c'est par rapport aux différentes parties prenantes. Il y a des intervenants qui sont considérés comme des intervenants extérieurs, qui sont très importants, surtout pour les pays comme les nôtres. Je vais parler des institutions internationales, comme la Banque mondiale. Le problème de leur redevabilité, parce qu'ils sont impliqués à fond dans les questions d'organisation et de financement de l'éducation. Par rapport aux statistiques qui nous sont données, je comprends bien que ce qui est donné sur le taux d'achèvement, sur le primaire, c'est mondial, c'est-à-dire 83% qui achève le primaire, c'est bien ça. Si je prends un pays comme le Burkina Faso, le taux d'achèvement du primaire est de 57%. Alors, est-ce que le rapport a désagrégé selon les situations pour qu'on ait quand même une réalité, une approche des réalités de façon plus étroite? Merci.
Merci beaucoup. Aïssata du Sénégal.
Voilà, merci, modérateur. Donc, je félicite la clarté de la présentation. Par rapport aux défis, on nous a parlé donc de l'achèvement. Mais je voudrais quand même, par rapport à ce défi, qu'on regarde aussi davantage par rapport aux filles. Puisque si nous prenons le cas du Sénégal, bon, le pari de l'accès étant gagné, même l'indice de parité commence à être dépassé au niveau du primaire. Mais ce que nous constatons, que le taux d'achèvement des filles, donc ça pose encore beaucoup plus de problèmes à cause de certaines pesanteurs et contraintes par rapport aux filles. Donc, par rapport aux défis qu'on se prend sur ça. Et aussi, un autre défi, à mon avis, c'est l'appropriation, la vulgarisation des ODD. Parce que si nous voulons que les États rendent compte, il faudrait quand même que les populations donc, soient informées de ces contenus pour pouvoir contrôler. Et ce que nous constatons, 2 ans après, donc, il y a un problème donc, d'appropriation, d'assimilation du contenu même des tenants et des aboutissants de ces ODD. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, surtout nous, sociétés civiles. Et aussi pour terminer, les sociétés civiles savent que l'État, en signant une convention, il y a un caractère coercitif. Mais si nous ne faisons rien, si nous n'avons pas des coalitions fortes pour pousser les gouvernants à tenir leur engagement, donc on restera toujours là à parler et 10 ans après, on sera à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. Je vous remercie.
Merci. La France.
Oui, alors c'est un commentaire, une réflexion, question, puis une petite question. C'est sur la question des langues. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qui a été présenté, de dire que c'est une des raisons pour laquelle il y a un taux d'analphabétisation dû au fait que l'enseignement n'est pas nécessairement dans la langue maternelle. Et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment parce que j'étais au Népal le mois dernier. Et une des raisons, et alors c'est en lien avec les discussions qu'on a aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles les enfants quittent l'école publique, c'est la question de la langue qui n'est pas enseignée en anglais. Et donc les élèves quittent l'enseignement public pour aller dans l'enseignement privé pour recevoir un enseignement en anglais. Alors qu'on passe notre temps à plaider pour un enseignement en langue maternelle. Et donc là, ça vient confirmer exactement, les chiffres confirment ça. Et je me demandais du coup s'il y a d'autres informations sur la question des langues autour de ça. Et je me demandais justement, quand on réfléchissait, ces parents qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, c'est peut-être pas pour ça que justement ils vont avoir une éducation de bonne qualité du coup, puisqu'il y a ce problème-là. Et ça serait un bon plaidoyer, ça, pour nous, pour la qualité de l'éducation publique en langue maternelle, peut-être. Donc ça, c'est une question, si le rapport aborde ça. Et une toute petite question, quel est le rapport, quel est l'État qui a fait un rapport annuel de suivi, si on peut savoir ? Merci.
Merci beaucoup. Québec.
Oui, bonjour. Alors, c'est ça, moi, ma question, c'est à propos de la première cible, la cible 4.1, enseignement primaire et secondaire. Si on met en contexte, il y avait les objectifs du millénaire qui prévoyaient qu'en 2015, tous les enfants, il y aurait un achèvement du primaire pour tous les enfants dans le monde. Cet objectif-là n'a pas été atteint de loin. Là, on augmente beaucoup, beaucoup la cible en visant à ce que toutes les filles et tous les garçons terminent un cycle complet au secondaire. Au même moment, on voit une augmentation importante du secteur privé, des écoles privées qui augmentent, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici cette semaine. Vous avez mentionné le problème d'équité, qui fait en sorte que dans les écoles privées, les gens des populations démunies ne peuvent pas avoir accès parce qu'il y a des coûts associés à l'éducation privée. Est-ce qu'on peut, dans votre reddition de compte, est-ce qu'on peut déjà espérer que cet ODD4 pourrait être atteint, alors que les astres s'enlignent justement pour que cet objectif-là ne soit pas atteint? Premièrement, on parle de l'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité. La croissance du secteur privé fait en sorte que ce n'est pas gratuit. On a vu qu'en 2015, on n'a pas atteint l'objectif. Comment peut-on espérer atteindre l'objectif beaucoup plus élevé d'un achèvement au secondaire? Merci.
Merci. Haïti, pour clôturer ce premier tour de questions.
Oui. Oui, oui, exactement. Je remercie la madame pour son intervention. Mais ce que j'ai à dire aussi, c'est un rapport à la dame du Bénin qui a parlé concernant les filles, etc. Parce que nous, en Haïti, on a ce problème-là avec l'accès à l'éducation des filles et l'achèvement par rapport au cycle d'école. Parce que là, il y a des études qui sont faites en primaire. Les filles sont au même nombre, même plus, autant de filles que de garçons en primaire. Mais à mesure qu'on monte en niveau, là, on perd les filles. Par exemple, à l'université, si sur 8 jeunes qui rentrent, on n'a qu'une fille. Alors, à ce moment-là, on a certains problèmes. Et puis, par rapport à ce que vient de dire aussi Luc, nous, en Haïti, on n'a même pas encore atteint les OMD, voire pour les ODD. C'est-à-dire, là, déjà, on donne les résultats concernant les ODD, et nous, les OMD, on n'a même pas encore atteint, voire pour les ODD. Et c'est tout ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des conventions, des nouvelles choses, nous, on signe, on se met ou pas, mais ce qui se fait dans la réalité est toujours très différent. Alors là aussi, j'aimerais aussi avoir, connaître aussi les États par rapport à Haïti, qu'est-ce qui a été dit, fait, par rapport à l'État haïtien concernant les, déjà OMD, ODD, bon bref, je ne sais pas où je suis là. Merci.
Merci à tous. Donc, je vais redonner la parole à notre présentatrice pour des clarifications. Peut-être les commentaires, on peut laisser, mais des clarifications sur ces questions-là. Je voudrais faire un deuxième tour, donc en 5 minutes.
Merci. S'agissant de la première question sur l'achèvement, et comment le mesurer sur le plan qualitatif et pas uniquement sur le plan quantitatif. Je voudrais simplement souligner que la présentation que j'ai faite, elle devait être longue et beaucoup plus complète, et que, faute de temps, j'ai dû abréger. Concernant la cible 4.1, elle parle d'achèvement, mais elle parle également de la nécessité pour les élèves d'atteindre un minimum de compétences en lecture et en calcul. L'Institut de statistique de l'UNESCO a produit une nouvelle estimation qui montre que, s'agissant du primaire, on a 387 millions d'enfants d'âge du primaire qui n'atteignent pas un minimum de compétences en lecture et en calcul. Donc, les données sont là. Et la moitié, c'est-à-dire un environ, ou plus de la moitié, c'est-à-dire plus de un enfant sur deux n'atteignent donc pas ces compétences minimales. Et en Afrique subsaharienne, c'est 9 enfants sur 10 environ. Donc, c'est énorme. Donc, de tels chiffres, évidemment, quand ils sont produits, c'est évidemment pour attirer l'attention sur le fait que c'est important de mettre les enfants à l'école, de veiller à ce qu'ils y restent jusqu'à la fin du cycle, mais c'est également important de s'assurer qu'ils y apprennent quelque chose. Parce que ce chiffre qu'a produit l'Institut de statistique montre que les deux tiers de ces enfants, pourtant, ont été à l'école. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le système éducatif qui ne marche pas. Comment améliorer la qualité de l'éducation vraiment pour que les enfants apprennent, c'est-à-dire ce pourquoi ils vont à l'école.
La question des différentes parties prenantes et le rôle des institutions internationales et comment les amener à rendre des comptes. C'est vrai que tous ces programmes d'éducation sont encouragés par les institutions internationales. Même s'il faut quand même souligner que pour ce nouveau programme du développement durable, les pays étaient à la manette. C'est-à-dire qu'on a enfin respecté, on a enfin tenu compte de la question de l'appropriation de ces grands programmes internationaux par les pays. Donc ça ne s'est pas fait sans les pays. Donc, puisque ça s'est fait avec les pays doivent justement rendre des comptes. Mais les organisations internationales, elles aussi. Par exemple, quand on prend la question de l'aide, hein, ça fait des années que les donateurs promettent, encore qu'en ce moment plutôt, ils ne promettent plus tant que ça, puisqu'ils ont eux-mêmes des problèmes. C'est-à-dire que quand ils prennent des engagements justement pour aider les pays, surtout ceux qui en ont le plus besoin en termes financiers, est-ce que tiennent-ils vraiment compte de leurs engagements? Et le travail qu'on fait dans le rapport, justement, et il y a un chapitre sur la redevabilité des organisations internationales qui y est, et vous allez pouvoir le voir, on leur demande également de rendre des comptes. C'est-à-dire que quand ils ne font pas ce qu'ils ont demandé, ils ont promis de faire, on le leur rappelle. Et donc, tout le monde, tous les acteurs sont amenés à rendre des comptes. Et il n'y a aucune exception à la règle.
Est-ce que les statistiques sont désagrégées?
Alors, toutes les statistiques dans le rapport sont désagrégées. Donc, c'est désagrégé en matière des taux d'achèvement. Donc, vous allez voir dans le rapport a produit également des tableaux statistiques dont j'ai la charge qui... On a décidé, justement, parce que les questions du genre sont très importantes, hein, le droit à l'éducation doit s'appliquer à tout le monde, y compris aux filles, et on se fait fort, justement, de publier les données les plus désagrégées possibles. Donc, toutes ces données-là sont comprises à l'intérieur du rapport, y compris dans les tableaux statistiques. C'est d'autant plus important que, vous l'avez rappelé, l'achèvement des filles... surtout au niveau du secondaire, est un réel problème. Parce que c'est également à cet âge-là que dans un grand nombre de pays, les filles sont amenées à se marier, parce que c'est la question de l'âge du mariage précoce, des grossesses précoces également. Donc, c'est l'achèvement de l'enseignement secondaire, y compris du premier cycle de l'enseignement secondaire, est un réel défi. Donc, quand on parle de l'ODD 4.5, sur l'équité et qui appelle les pays à éliminer les disparités entre les sexes, il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'il faut, aller plus loin pour traiter des questions de l'égalité réelle entre les genres, qui renvoient, elles, au problème des valeurs, des traditions, qui ne sont pas toujours, qui sont souvent, parfois, discriminatoires à l'encontre des filles. Donc, on ne peut pas on ne peut pas s'assurer que l'objectif de l'achèvement sera réalisé si on n'a pas un effet, on ne travaille pas justement pour que ces autres aspects de l'égalité soient traités, parce que sinon ça ne se fera pas. Donc les problèmes sont beaucoup plus complexes que ça, et les États doivent travailler avec eux pour leur dire oui, vous faites en sorte que les filles aillent à l'école, que tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, aillent à l'école, mais comment faites-vous pour que ça aille beaucoup plus loin que ça? Comment aller plus loin que la parité, qui est un élément essentiel de l'égalité entre les sexes, mais ça ne s'arrête pas là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et aucun pays dans le monde n'a véritablement atteint l'égalité entre les sexes. Donc c'est un problème qui continue à se poser à l'ensemble des pays du monde. Voilà. Alors l'appropriation, le travail d'appropriation des ODD, c'est déjà un travail d'appropriation par les pays eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, l'UNESCO, une fois que l'agenda a été adopté, a organisé un certain nombre d'ateliers avec les différents pays, justement pour les amener à, une fois qu'ils ont adopté ces objectifs, à vraiment travailler concrètement. Donc l'UNESCO fait tout un travail de revue des politiques avec les pays, justement pour les amener à s'approprier cette OD4 de ces différentes cibles, et à travailler avec les pays pour les amener, pour voir dans quelle mesure, comment travailler avec eux pour qu'ils adoptent ce nouveau programme, ces nouveaux objectifs et ces nouvelles cibles dans leur politiques éducatives qui doivent être revues en fonction leur plan d'éducation, les budgets qui vont avec. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'adopter les objectifs, encore une fois, encore faut-il concrètement veiller à ce que ça soit vraiment reflété dans les politiques éducatives et que ces derniers soient réellement mis en place, mis en œuvre. Alors, je tiens quand même à souligner que ce nouvel agenda qui a été adopté, que les pays sont en train de s'approprier, c'est un agenda, et l'agenda du développement durable en général, c'est un agenda qui a une aspiration politique, d'accord? C'est vraiment ce vers quoi tous les pays doivent tendre. Évidemment qu'on a eu de nombreux débats sur le caractère beaucoup trop ambitieux de cet agenda, parce que ce n'était pas faisable pour les pays. Mais sincèrement, comment continuer, nous autres ici, la société civile, à traiter, à travailler sur les questions de droit à l'éducation, si on ne s'approprie pas cet agenda? C'est-à-dire, évidemment, ça va être difficile. Mais encore une fois, c'est une aspiration. C'est ce vers quoi les pays doivent tendre. Évidemment qu'eux-mêmes, dans leur politique éducative, ils vont définir des objectifs intermédiaires. Hein? Mais encore, c'est vraiment l'horizon vers lequel tout le monde doit tendre. Comment avoir un tel agenda alors que les objectifs du millénaire et les objectifs d'éducation pour tous n'ont pas été atteints? Il faut simplement se dire que dans la mesure où cette ODD 4 est un agenda le plus exhaustif possible, ça prend et bien évidemment en compte cette question de l'agenda du développement du millénaire et de l'éducation pour tous qui n'a pas été atteint. Donc, c'est pris en compte. C'est-à-dire que ces objectifs-là, on ne les laisse pas de côté. Ils sont partie prenante, ils sont intégrés dans le nouvel agenda. Et les pays doivent veiller à ce qu'ils les atteignent. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Je félicite beaucoup Madame pour la qualité de sa présentation. J'aimerais intervenir sur le thème de l'alphabétisation dont elle avait fait mention. On sait que l'ODD met l'emphase sur l'apprentissage tout au long de la vie. Elle a parlé de l'alphabétisation. Quand on voit dans la plupart de nos pays, le taux d'alphabétisation est très faible. En prenant le cas du Mali, nous sommes à 70% d'analphabètes. Et tout de suite, il y a
tout juste deux mois, nous venons de célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation qui met le focus sur l'alphabétisation dans un monde numérique où il est question, je pense, à mon avis, c'est un questionnement ou un deux questionnements, est-ce qu'il n'est pas intéressant de repenser le concept d'alphabétisation, de son contenu et aussi de ses méthodes d'enseignement. Quand on regarde le nombre de citoyens ayant la possibilité d'accéder aux différents outils relatifs aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, eu égard à leur situation géographique, à leur sexe lié au genre et aussi au niveau de pauvreté, est-ce que cela ne va pas contribuer à creuser davantage la fracture numérique? Je vous remercie.
Merci. Notre collègue et ami du Cameroun.
Merci de me passer la parole, Roger Kafo du Cameroun. Je voudrais faire deux petits commentaires et ensuite poser une question. Le premier commentaire, je voudrais le faire par rapport au lien très pertinent que Madame a fait entre l'ODD 4 et les autres objectifs du développement, notamment la pauvreté. Pour rappeler que il sera très difficile de faire fonctionner l'ODD 4 dans un contexte de pauvreté, parce que très souvent, le refus de certaines couches de population dans certaines zones d'envoyer les enfants à l'école relève d'un calcul purement rationnel. C'est-à-dire que dans un contexte de précarité de la vie, les gens font des calculs et se disent, bon, j'envoie un enfant à l'école pendant 10 ans, je ne suis pas sûr que je serai vivant dans 10 ans, je ne suis pas sûr que lui sera vivant dans 10 ans, alors autant l'envoyer tout de suite faire le petit métier du coin là, il me sera plus utile. Autant l'enlever, l'envoyer faire de l'élevage, il me sera plus utile. Donc, il faut véritablement associer la recherche de l'ODD 4 à la lutte contre la pauvreté. Le deuxième commentaire porte sur la question de la langue. J'ai apprécié l'intervention de madame sur les questions de langue. Et je voudrais là-dessus ajouter que il faut tenir compte des étapes transitoires dans la mise en œuvre de la langue. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas commencer l'introduction de la langue par l'enseignement dans la langue. Il faut commencer par l'enseignement de la langue. Cette étape transitoire-là, si elle n'est pas faite, on aura des problèmes. Et maintenant, la question que je voudrais poser porte sur la reddition des comptes. Et je voudrais attirer notre attention sur le parallélisme de la forme et de la compétence. Les États prennent des engagements au niveau international et doivent rendre des comptes au niveau national. Il y a un non-parallélisme des formes de la compétence. Je pense que le fait qu'on les ait amenés à prendre des engagements au niveau international relevait d'un constat que, en le faisant, au niveau national, ce n'était pas suffisamment efficace. Et donc, ils devraient rendre compte aussi au niveau international. Et dans ce sens-là, la plupart des instances internationales sont des instances étatiques. C'est-à-dire, en fait, ils se rendent compte à eux-mêmes, entre eux-mêmes. Est-ce que les conditions de la reddition des comptes sont réellement réunies? Je vous remercie.
Merci.